Radio là, radio là. Bonjour Pedro.
Bonjour Lionel.
Merci de nous accueillir une nouvelle fois dans ton vestibule.
Mais de rien.
Alors, aujourd'hui, tu as décidé de nous parler d'un bouquin de poche,
Oui, d'un livre de poche.
excusez-moi, d'un livre de poche qui s'appelle Vie minuscule de Pierre Michon.
C'est tout à fait ça.
Alors Pierre Michon, il est né en 1945
Oui,
dans la Creuse.
dans la Creuse, oui.
Dans un petit hameau qui s'appelle le hameau des Carpes, pour
Tout à
information.
fait.
Et donc, Pierre Michon, il a un début de vie pas
Il
facile.
a un début de vie pas facile, oui. Il n'a pas fini ses études. Après, il est parti, il a voyagé à travers la France. Il a fait un peu de théâtre. Enfin, il a fait, on peut dire, un peu n'importe quoi pendant très longtemps. Son désir, c'était d'écrire. Et il a réalisé ce désir en 84 en publiant ce roman qui s'appelle Vie minuscule, qui a eu
Le prix littéraire.
le prix littéraire de France Culture, oui, ce qui a donc décidé de ce que serait le reste de sa vie, il serait écrivain. Ça l'a sauvé en quelque sorte.
D'accord. Et par la suite, il a quand même publié une quinzaine d'ouvrages.
Voilà une quinzaine d'ouvrages dont certains ont eu un succès relativement relatif.
Alors, je vais en nommer quelques-uns.
Vas-y, nomme-en quelques-uns.
Donc, La vie de Joseph Roulin en 1988.
Oui.
Où il décrit la vie de Van
De
Gogh.
Van Gogh, oui, par l'entremise du facteur de Van Gogh que celui-ci avait souvent peint. Donc c'est Joseph Rollin qui parle, mais ça décrit la vie qui a été la vie de Van Gogh.
D'accord. Ensuite, en 1991, il écrit Rimbaud le fils.
Rimbaud le fils, c'est pareil, c'est une biographie de Rimbaud, mais vue à travers les gens proches de Rimbaud, donc sa mère, dont sa mère et sa fille, et sa sœur, pas sa fille, voilà.
En 1995, La Grande Bonne.
Oui.
Ensuite, Corps du Roi
Et Abbé.
et Abbé. Et
Il
là où.
a publié ces deux, ce sont deux petits, ben ce sont toujours des petits fascicules, Pierre Michon, qui font 80 à 100 pages. Il a publié les deux en même temps, puis ils ont eu un prix littéraire, oui, le prix décembre 2002.
D'accord. Ensuite, Les 11 en 2009.
Oui, en 2009, Les Onze, qui c'est un roman qui parle d'un tableau qui représentait les 11 représentants du comité de salut public. Et donc c'est un roman qui, pendant 100 pages, parle de ce tableau, des personnages qui sont dans ce tableau, mais il s'avère que ce tableau n'existait pas et le peintre n'existe pas. C'est tout à fait inventé.
D'accord.
Voilà.
Alors Michon, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur les mots.
Voilà, il travaille beaucoup les mots et il essaye de retrouver l'oralité des anciens temps. Donc sa phrase coule, c'est très chantant, c'est très musical comme phrase.
Alors, vie minuscule.
Oui. Alors, Les Vies minuscules, c'est un peu un roman autobiographique. Il parle de son enfance, de sa vie au lycée, de sa vie à la campagne et. Ce long cheminement, le long de ce cheminement, il parle des petites gens qui ont traversé sa vie. Les vies minuscules, ça veut dire la vie de ces petites gens qui avaient des petites vies.
Ok.
Voilà.
Passons aux choses sérieuses.
Alors, au plus difficile, à la lecture. C'est bien ça. Donc, je vais pour commencer te lire eh bien, la première nouvelle. Enfin, si on peut appeler ça une nouvelle. La première nouvelle. Alors, elle parle de la vie d'André Dufournon. Avançons dans la genèse de mes prétentions. Ai-je quelque ascendant qui fut beau capitaine, jeune enseigne, insolent ou négrier farouchement taciturne? À l'est de Suez, quelconque retourné en barbarie sous le casque de Liège, jode pure aux pieds et amertume aux lèvres. Personnage pensif qu'endossent volontiers les branches cadettes, les poètes apostats, tous les déshonorés, pleins d'honneur, d'ombrage et de mémoire, qui sont la perle noire des arbres généalogiques. Un quelconque antécédent colonial ou marin. La province dont je parle est sans doute, est sans côte, plage ni récif. Ni ma loi exaltée, ni hautain moko, ni entendit l'appel de la mer quand les vents d'ouest la déversent, purgée de sel et venue de loin sur les châtaigniers. Deux hommes pourtant qui connurent ces châtaigniers s'y abritèrent sans doute d'une averse, y aimèrent peut-être, y rêvèrent en tout cas. Sont allés sous de bien différents arbres travailler et souffrir, ne pas assouvir leurs rêves, aimer peut-être encore ou simplement mourir.
C'est joyeux.
C'est très joyeux, oui, ben souvent la vie des petites gens n'est pas très joyeuse.
Ouais. Il y a un extrait que j'aimerais bien que tu nous lises, c'est celui avec la grand-mère et sa boîte magique.
Attends, c'est lequel? Ah oui, c'est celle-là. Mais c'est le deuxième extrait que je t'avais préparé.
Ah ben voilà.
Ça tombe impeccable. Et là, c'est la vie d'Antoine Peluché. À Mourioux, dans mes premiers âges, il arrivait lorsque j'étais malade ou seulement inquiet que ma grand-mère, pour me divertir, alla chercher les trésors. J'appelais ainsi deux boîtes de fer-blanc naïvement peintes et cabossées qui avaient jadis contenu des biscuits, mais qui recelaient alors de toute autre nourriture. Ce qu'en tirait ma grand-mère, c'était des objets dits précieux et leur histoire, de ces bijoux transmis qui sont mémoire aux petites gens. Des généalogies compliquées pendaient avec des breloques aux chaînettes de cuivre. Des montres étaient arrêtées sur l'heure de l'ancêtre, parmi des anecdotes courant sur les grains d'un chapelet, des pièces portées avec le profil d'un roi, le récit d'un don et le nom manant du donateur. Le mythe inépuisable authentifiait son gage limité. Le gage luisait faiblement au creux de la main d'Élise. Dans son tablier noir, améthyste et bréchée ou bague sans chaton. Le mythe que déversait benoîtement sa bouche suppléait le chaton des bagues et épurait l'eau des pierres, prodiguait toute la joaillerie verbale qui éclate dans les étranges noms propres des aïeux. Dans la centième variante d'une histoire qu'on connaît, dans les motifs obscurs des mariages des morts. Au fond, oui, c'est bon. Au fond d'une de ces boîtes, pour moi, pour Élise, pour nos secrètes palabres, il y avait la relique des Peluchés.
Merci.
Mais de rien.
C'est beau ça, ce passage. On y est
Ben,
là avec mamie là.
ouais. Mais c'était très beau tout le long. Il y a des passages comme ça qui sont très touchants, quoi. Et là, qu'est-ce que je... Ah, mais tiens, j'ai été un extrait où il parle de Clara. Et Clara, c'est la vie de qui? Mais les histoires sont plus ou moins longues. Ouais, celle-là est très longue. Ça, c'est vie de Gênes et de Clara. Donc là, il parle de Clara. Peu d'années après, on m'avisa de l'hospitalisation de Clara. Des maux de vieillesse la tourmentaient. Elle ne voulait pas rester seule parmi ses fantômes dans la petite maison crépie. Sans doute n'emporta-t-elle dans une valise usée que d'autres mains mirent à l'arrière d'une ambulance que quelques effets. L'odeur que j'ai respirée enfant dans la patache et dont je me souviens. Et la réserve d'absence des portraits. Elle écrivit à ma mère. Elle suppliait que je vinsse. Je ne vins pas. Elle envoya encore quelques lettres, toujours à ma mère, et l'une fut la dernière. Elle vivait encore pourtant, nous le savions. À moi, elle n'écrivit pas. C'est que je n'étais plus un enfant. J'avais dédaigné de suivre les cendres de Gênes. Je la laissais mourir et me taisais. Je reniais alors mon enfance. J'étais impatient de combler le creux qui avait imprimé tant d'absence et m'autorisant de sottes théories à la mode. J'en faisais grief à ceux qui, plus que moi, en avaient souffert. Le désert que j'étais, j'eusse voulu le peupler de mots, tissé en voile d'écriture pour dérober les orbites creuses de ma face. Je n'y parvenais pas, et le vide titu de la page contaminait le monde dont il escamotait toute chose. Le démon de l'absence triomphait, me refusant avec bien d'autres affections celle d'une vieille femme que j'aimais. Ça laisse quoi?
Un petit peu.
Tu ne sais pas quoi dire après. Oui.
Donc, lisez Pierre Michon.
Pierre Michon. Ouais,
Ouais.
disait Pierre Michon. Un petit extrait encore? Un petit Van Gogh?
Un petit Van Gogh, alors pour la route.
Van Gogh. Van Gogh. Certains lettrés de Rembrandt, pareillement enfenestrés, rivés à leur siège d'ombre, mais la face baignée des larmes du jour, et mêmement stupéfiés de leur propre pouvoir, lui ressemblent davantage. Mais ce sont des lettrés. Le vieux, autant qu'on en put juger sur son pantalon de velours et sa veste de drogue, la pesanteur de ses mimiques aussi était du petit peuple. Donc là, il va parler du père Foucault. Il s'appelait Foucault, et les infirmières, avec l'indiscrète familiarité condescendante et, qui sait, charitable qu'elles mettent à leur commerce, l'appelaient le père Foucault. Affublé de ce nom de philosophe en vogue et de missionnaire illustre, père, lui aussi, le vieil homme n'en paraissait que plus obscur et prêtait à sourire. Je n'ai jamais connu son prénom. De ces mêmes infirmières, j'étais dans leur bonté. Elles me parlaient sans défiance, ce que j'usais sans doute du même bavardage chatoyant, aguicheur et vide que les puissants qu'elles servaient sans vergogne. Elles ne soupçonnaient pas que ce parler se peut mettre au service du refus de ce qu'elles idolâtrent, de la coupable absence, de la disparition dans une incurie rageuse. D'ailleurs, je n'avais pas à être si duplice. Moi aussi, peut-être, je les aimais bien. Leur chair et leur fragilité me plaisaient. Si leur conformisme acerbe m'exaspérait, et elles eussent été bonnes filles, hors de cette position d'argousin qui les courbait d'autant plus servile vers les doctes en blouse blanche qu'elles étaient vipérines, protectrices et railleuses envers les plus humbles des malades. De ces filles dont j'appris que le père Foucault avait un cancer à la gorge. C'est très gai.
Une chute bien.
Les vies minuscules sont vraiment difficiles à vivre. Oui.
Bah écoute, merci à toi. T'as un petit mot à dire pour conclure?
Non, j'espère que je redonnerai envie aux gens de lire Pierre Michon. C'est un des grands auteurs contemporains. Il n'a que 71 ans.
Merci à toi.
De rien.
Au revoir.
Au revoir.